Le journal de l'écho, Diane Berger. Bonjour Diane.
Bonjour Quentin, bonjour à tous. Quel avenir pour l'industrie du thon? Près de 4,5 millions de tonnes de ce poisson sont pêchées chaque année dans le monde et sur ces 4,5 millions, le quart environ est prélevé dans l'océan Indien. Et justement, à partir de lundi prochain, les membres de la commission des thons de l'océan Indien se réunissent à Bangkok, en Thaïlande, 28e assemblée de cet organisme de gestion des pêches qui regroupe une trentaine d'États. Beaucoup de sujets vont y être négociés, notamment l'allocation des quotas de pêche entre les États et les techniques autorisées pour capturer la ressource. Catherine Pétillon, bonjour.
Bonjour Diane.
Cette assemblée peut paraître lointaine au public français, mais c'est pourtant un enjeu important pour Paris et Bruxelles.
Oui, car le thon est le poisson le plus consommé en France, quasiment 4 kilos par an et par habitant. L'accès aux ressources thonnières est donc une question majeure, et c'est donc dans le lointain océan Indien qu'est pêché l'essentiel du thon que nous consommons ici. Une cinquantaine de bateaux alimentent le marché européen, et ces pêcheurs utilisent quasiment tous des senneurs. Ce sont des grands navires qui déploient autour de bancs de thon d'immenses filets de plusieurs centaines de mètres de long et de haut, filets qu'ils resserrent ensuite pour ramener les poissons. C'est ce qu'on appelle la senne coulissante. Et pour rendre cette pêche industrielle plus rentable, les pêcheurs ont imaginé des techniques qui pèsent sur la gestion de l'espèce et sur l'environnement. C'est en tout cas l'alerte que porte une nouvelle fois l'ONG Bloom. Elle vient de publier un rapport sur le sujet. Frédéric Lemanac est son directeur scientifique.
Pour pêcher de manière plus efficace, les pêcheurs européens ont développé une technique de pêche qui s'appelle le dispositif de concentration de poissons. C'est simplement un radeau qui est fait de bambou, de bouées, de câbles, de filets, de bâches, etc. Donc c'est vraiment comme une grande méduse qui va dériver au gré des courants et qui va agréger des écosystèmes entiers dessous. Et le problème d'avoir développé à échelle commerciale ces objets flottants, c'est que on va capturer énormément de juvéniles, donc des poissons qui ne se sont pas encore reproduits, ce qui pose problème sur des populations qui sont déjà surexploitées. Et on va aussi capturer un certain nombre de ce qu'on appelle des captures accessoires, parfois d'espèces qui sont très fragiles et qui sont menacées d'extinction. Et c'est le cas, par exemple, des tortues marines de Kemp ou d'autres espèces de tortues, ou les requins soyeux ou longimanes qui sont considérés comme en danger critique d'extinction au niveau mondial.
Frédéric Lemanac de Bloom, l'ONG qui dénonce aussi les conséquences sur l'environnement et la biodiversité, Catherine.
Oui, Bloom estime qu'au moins 40% de ces dispositifs de concentration de poissons, les DCP, ne sont jamais récupérés. Ils finissent par s'échouer sur les littoraux, par abîmer les coraux, polluer avec leurs batteries et circuits électroniques, continuent aussi à emprisonner des espèces. Autant d'effets néfastes que l'ONG met en regard de la pêche à la canne pratiquée par les Maldives, bien moins impactante pour l'environnement et aux bénéfices socio-économiques plus grands pour les populations. Sans compter la consommation de carburant nécessaire à cette pêche industrielle. À l'inverse, la Commission européenne et les industriels défendent ces dispositifs en avançant qu'ils rendent justement la pêche plus efficace et donc plus rapide et économe en carburant. Plusieurs pays côtiers de l'océan Indien proposent de réduire le nombre de ces dispositifs, pas l'Union européenne qui les défend. Ils seront donc à nouveau au cœur des débats entre États à Bangkok lors de la prochaine assemblée de la Commission des thons de l'océan Indien.
Merci beaucoup Catherine Pétillon. Votre décryptage économique, on peut le retrouver en podcast sur la page du journal de l'Écho sur le site de France Culture. Les rues vides en pleine semaine en Argentine. C'était hier le deuxième jour de grève générale dans le pays en à peine 5 mois. 400 vols ont été annulés, les lignes de train et de bus fermées. Le mouvement a été très suivi dans le secteur public après ces dernières semaines de nombreuses mobilisations quasiment quotidiennes à Buenos Aires contre l'inflation et la politique ultralibérale du président argentin Javier Milei. Le président chinois continue, lui, sa tournée à travers l'Europe après la France et la Serbie. Xi Jinping était en Hongrie hier, accueil chaleureux, parade militaire et dîner de gala avec Viktor Orban, le premier ministre ultra-conservateur du pays. C'était l'occasion pour Pékin de vanter ses liens économiques avec Budapest, bien loin des différents commerciaux qui l'opposent à Bruxelles. De nombreux projets ont été annoncés, notamment dans le secteur ferroviaire et le nucléaire. La Chine, dans le viseur des autorités américaines. Les États-Unis viennent d'ajouter 37 entités chinoises à leur liste commerciale. Elles ne peuvent donc plus obtenir de matériel et de technologies américaines sans l'autorisation de Washington. Selon le gouvernement américain, certaines de ces entreprises visées sont liées au survol du territoire américain par un ballon chinois. C'était en février 2023. Les États-Unis avaient accusé alors Pékin d'espionnage. D'autres entités ciblées sont liées au programme nucléaire chinois et à l'expédition d'articles contrôlés vers la Russie. On en sait un peu plus sur ce à quoi pourraient ressembler les États-Unis de Donald Trump s'il revient au pouvoir. Sur les questions d'environnement, c'est le journal Le Washington Post qui le révèle. L'ancien chef d'État a promis à des dirigeants de compagnies pétrolières l'inversion de plusieurs politiques mises en place par Joe Biden. Il veut notamment mettre fin au gel des permis de nouvelles exportations de gaz naturel liquéfié et annuler les restrictions sur les forages en Alaska. Enfin, Apple présente ses excuses après le tollé provoqué par sa dernière publicité pour l'iPad Pro. On y voit une presse hydraulique écraser des statues, des instruments de musique ou encore du matériel de peinture, remplacé ensuite par une tablette numérique. Une vidéo qui avait suscité la colère des milieux artistiques en plein questionnement sur l'impact de l'intelligence artificielle sur la culture.